À Rencontre spirituelle aujourd'hui, sera question d'un philosophe espagnol extrêmement intéressant, un agnostique, donc quelqu'un qui ne sait plus s'il croit ou s'il ne croit pas, si Dieu existe ou s'il n'existe pas, des questions qu'il ne peut plus se poser et qui s'engage comme philosophe dans des activités purement humaines, avec beaucoup de générosité, mais qui finalement change d'avis à un moment donné. Il est mort en 1942, chose absolument phénoménale, il s'était marié, il est devenu veuf, et je l'ai peut-être mal annoncé la semaine dernière, j'ai dit qu'il était devenu prêtre après son mariage, je voulais dire après que son mariage se soit terminé par malheureusement la mort de sa femme. C'est Manuel García Morente, donc décédé en 1942, un personnage assez important dans son époque et qui peut nous éclairer sur le cheminement de notre foi, mais aussi le cheminement peut-être de la foi de gens qui nous entourent et qui se sont éloignés de l'Église. Je m'inspire d'un texte d'un de ses grands amis, Monseigneur Pierre Joby, qui l'a bien connu, qui a cheminé avec lui après sa conversion. C'est un philosophe espagnol, donc, qui a été aussi un homme d'action, un homme politique. Il a même été ministre dans son gouvernement, sans compromission de parti, d'ailleurs. C'est un homme sincère et honnête, qui n'a trempé dans rien de louche, absolument pas, à l'encontre de tout ce qu'on nous révèle à la télévision américaine ces jours-ci, sur les horreurs des manipulations qui se font à la Maison-Blanche, avec des sommes fabuleuses d'argent de gens qui ont des influences sur le gouvernement démocrate. C'est épouvantable de voir ça. Il y a un torrent de choses louches dans l'administration américaine. C'est terrible. Mais lui, non. En Espagne, à ce moment-là, pas du tout. Et c'était aussi un professeur d'université, un doyen de la plus importante faculté des lettres de son pays, l'Espagne, évidemment. C'est vraiment quelqu'un, et c'est un Européen. Il a une vaste formation qu'il a puisée à l'étranger, parlait notre langue à la perfection, et il avait préparé plus que bien ses compatriotes toutes sortes d'études pour mieux comprendre le monde. C'était un père de famille, en plus de ça, un quatrième élément, père de famille profondément attaché au sien. Et cinquièmement, un agnostique, comme je vous ai dit, qui a eu à découvrir lentement, avec beaucoup d'efforts, la vraie lumière. Et presque au terme de sa vie, c'est un grand croyant. Il devient un séminariste, puis un prêtre, oui, un prêtre. Extraordinaire. Voilà un raccourci, quoi, la vie multiple et absolument paradoxale de Manuel García Morente. Écoutez bien, ça vaut la peine, c'est passionnant. Hein? Il est né le 22 avril 1882 à Arjonilla, ou Arjonilla, si vous préférez, dans la belle lumière là, de cette région de l'Espagne qu'on appelle l'Andalousie. Au cœur de la Castille, l'Andalousie. C'est magnifique, ces régions d'Espagne. Et sa mère, c'est une bonne Espagnole croyante et pieuse. Son père est médecin. Il est plongé dans les idées libéral, il veut laisser tomber des tas de choses lourdes et impossibles et incroyables, souvent. Et c'est pas moi qui le blâmerais, car à cette époque, il y avait des choses bien pénibles dans notre Église, hein? Très lourdes. Et il avait, disons, des idées avancées, bien qu'il n'y a pas de commune mesure quand on dit qu'il avait des idées libérales avec les classifications que l'on fait en France à ce sujet, ou dans d'autres pays. Cet enfant, disons, sera élevé d'ailleurs en France, hein, où son père a lui-même vécu et étudié. Ce sont des francophiles. À 8 ans, Manuel García Morente est interne, là, est pensionnaire, si vous voulez, au lycée de Bayonne, en France. Puis il est bachelier, finalement, après ses études classiques, si on peut dire, à 17 ans. Puis 2 ans plus tard, il est licencié lettres en Sorbonne, à Paris, oui. Puis il a été l'élève de Bergson, d'Henri Bergson, dont je vous ai déjà parlé, de Livy Brulle, de Boutroux, etc. Et puis, Mais s'il revient en Espagne avec tout ce beau bagage intellectuel qu'il classe immédiatement en tête de ses camarades, eh bien, sa foi, oh, le peu qu'il en a eu ou cru avoir, ben, est disparu. N'a plus de foi. Mais c'est dans cet esprit d'incroyance tranquille, oui. Il n'y a pas de révolte chez lui. Il entre en 1908 comme jeune professeur de philosophie à l'institution libre d'enseignement, qui est un bastion du libéralisme espagnol, de la pensée libérale. Ça n'a rien à voir avec les libéraux ici, puis le Parti québécois ou les partis conservateurs, rien à voir. Hein. Et il fait deux voyages en Allemagne, et là, le directeur de l'institution libre l'envoie là avec une bourse. Une bourse qui lui vient de la Junte pour le développement des hautes études. Et ça va finir de le préparer à sa grande carrière qu'il a ambitionnée. En 1911, à 25 ans, Manuel García Morente est docteur en philosophie, docteur es lettres, avec une excellente thèse sur l'esthétique de Emmanuel Kant. Et l'année suivante, il est nommé professeur à l'Université de Madrid. C'est souvent appelé l'Université de Madrid l'Université centrale. Hein? Il a obtenu, par voie de concours, la chaire ou d'éthique, ou de morale, si vous voulez, à la Faculté des Lettres. Marié en 1913 à 31 ans, c'est un professeur admiré de ses élèves. Il y a un public mondain qui l'entoure aussi. Et il enchante tout le monde par sa façon de dire les choses et d'exposer sa pensée. Puis, il connaît durant un bon bout de temps un bonheur sans mélange, quoi. Mais devenu veuf prématurément, oui, c'est un jeune veuf, fidèle au souvenir de sa femme. Il passe par des heures cruelles, elle était croyante. Hein. Il a un gendre qu'il affectionne, des petits-enfants qu'il adore, deux filles qui sont très bonnes pour lui. Mais quelqu'un qui l'a connu le dépeint ainsi durant ces années où il prend son essor, là où il devient de plus en plus connu. Voici le texte. Il triomphe dans l'enseignement universitaire par la faculté de l'expression, la clarté des idées et du langage, la maîtrise qu'il possède de s'adapter à tous les publics, la subtilité des observations, tout cela uni à une voix chaude, vibrante, virile et douce à la fois, qui constitue le meilleur de son charme. Et la fin de la citation, c'est « Les élèves l'admirent unanimement ». Alors imaginez, c'est un homme comblé et heureux. Et cet homme, dans son privé, est d'ailleurs bien sympathique. Hein? Alors, c'est comme ça que se présente Manuel García Morente, cet homme à la recherche de qui? Dieu s'est mis, Dieu le cherche. Vous allez voir, car Dieu nous cherche tous au fond. Mais lui a eu la grâce d'entendre, on peut dire, car Morente est un esprit qui se croit libéré. Il n'y a pas d'orgueil d'ailleurs, hein? Un grand mouvement de pensée avait traversé le 19e siècle espagnol, du moins sa deuxième moitié. Ce mouvement de pensée était héritier de Kant, de Manuel Kant et des post-kantiens. Le système édifié par Carl Christian Friedrich Krauss, qui est mort en 1831, se présentait comme un, mon Dieu, comme un idéalisme. Un panthéisme, disaient ses adversaires. D'autres disaient un pananthéisme, disaient ses sectateurs. Mais il y a une morale, une sociologie qui en découlait. Puis on se trompait pas vraiment en y voyant quoi. Quelque chose de si intéressant, c'est un socialisme humanitaire et mystique tout à la fois. Oui, parce qu'il y a des bonnes choses en dehors de l'Église. Faut pas se tromper. Hein. Faut pas tout rejeter. Hein. Un mélange d'influences piétistes aussi, et même maçonniques, mais pas dans le mauvais sens, qui, dans un pays où la vieille tradition catholique semblait alors atteinte de sclérose, ça devait attirer tous les anticonformismes et tous les refus, un peu comme ici, hein, où notre Église semble parfois un peu atteinte de sclérose sur certains rapports, et bien des gens sont attirés par toutes sortes de choses. C'est à nous de changer les choses, nous, les catholiques. Et alors, tel était le krausisme, comme on appelait ça, à cause de Karl Christian Friedrich Krause. K-R-A-U-S-E. Et ce succès, bien, il y a un ex-séminariste de Grenade, Julien Sanz del Rio, l'avait, dès 1840, apporté en Espagne. Alors, philosophiquement, le système, qui était d'origine allemande, était à l'évidence dépassé et démodé, puis il réussit cependant. Puis de belles intelligences adhèrent à ça comme à une foi nouvelle. Alors tous les résistants à la tradition catholique passent un moment par là. Quand il reste plus rien de la métaphysique, il demeure une saveur, un parfum, dont s'enchantent des jeunes hommes inquiets, c'est toujours comme ça. Et le juriste Giner de Los Rios est le plus ardent, le plus pur d'entre eux. Et de ses efforts naît ce qu'on appelle l'institution libre d'enseignement, qui va durer jusqu'en 1931, où entre en 1908 le jeune Garcia Moriente, une partie de l'élite qui va conduire les événements politiques de 1931-1936, a été formée d'ailleurs dans les salles de cours de l'institution libre qui a été fondée là. Et puis, Manuel Garcia Moriente s'y fortifie dans ses convictions libérales. Et ce mot, dans la vieille Espagne, désigne aux oreilles de bien des gens toutes les déviations de la pensée. Ça fait peur. Et alors, c'est ainsi que, en 1930, il accepte finalement d'entrer dans le cabinet formé par un général, le général Berenguer, qui, pour travailler pour la liquidation de la dictature du fameux général de Rivera. Mais c'est loyalement au service de la monarchie espagnole, puis il y remplit les fonctions de sous-secrétaire d'État à l'instruction publique. Et un an après, il est élu doyen à la faculté des lettres de Madrid, poste très important, puis en 1932, il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, il est donc dans les hautes sphères. Il fait des tournées de conférences en Allemagne, en Argentine, il a des amis partout. Il renforce dans sa faculté, là, des lettres, les études philosophiques. Il crée, sous le patronage du fondateur du krausisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure en Espagne, San del Rio, un institut de philosophie auquel il donne tous ses soins. C'est vraiment un philosophe de première grandeur, presque, mais durant ses années pesantes, au cœur d'un Espagnol fervent, hein, durant ces années que furent celles qui ont précédé le grand drame, il y a eu une guerre épouvantable en Espagne, une guerre civile. Mais Moriente éprouve de grands pressentiments, des pressentiments terribles. Il est appelé par l'Université de France à prendre place dans un jury devant lequel Monseigneur Joby, son futur ami, dont je vous ai parlé au début de l'émission, doit soutenir sa thèse sur le krausisme, cette philosophie-là, d'origine allemande. Et puis il exprime devant l'auditoire, dans une intervention pleine d'émotion puis d'éloquence, les craintes, oui, les craintes que depuis quelque temps sont les siennes. C'est le 6 juillet 1936 que tout ça se déroule. Et la veille, il visite avec Monseigneur Joby le monastère bénédictin de Ligugé, qui est le plus ancien monastère de France, près de Poitiers. Puis il dit au moine cette parole extraordinaire, « Qui sait, mes pères, si je ne finirai pas mes jours dans un monastère ?» Car ainsi qu'on l'a dit, il y a dans tout espagnol un mystique qui sommeille. Combien c'est vrai. Et sur le moment, cela semble une boutade absolument badine, aimable, quoi. Mais déjà, sans doute, il y a une inquiétude qui, chez lui, qui n'est pas un pur reflet des événements politiques de l'heure, qui vont bouleverser l'Espagne. Son cœur se prépare à bouleverser sa vie. Hein? Et il faut, pour comprendre cette conversion, il va falloir revenir en arrière puis jeter un regard sur l'évolution politique de l'Espagne au cours de ces années, qui ont vu mourir le philosophe Manuel Garcia Moriente. L'Espagne, qui n'avait pas participé à la Grande Guerre mondiale, se trouvait en 1918, quoi, matériellement enrichie, mais moralement diminuée. Hein. Puis le roi, malgré ses qualités, peut-être même à cause de certaines d'entre elles, n'était plus suffisamment l'arbitre des partis. Il y avait divorce entre cette monarchie catholique puis les intellectuels. Hein. Et beaucoup d'entre eux, du moins, étaient pris là-dedans, puis ils étaient orientés vers l'idéal d'une pensée qui serait affranchie du dogme catholique puis d'un statut politique de type républicain et laïque. Et alors, l'élite espagnole comprenait-elle bien la situation nouvelle? En 1931, en Espagne, après la liquidation de la dictature, bien, on a vu la chute du roi d'Espagne et l'établissement d'une république. C'était établi assez rapidement tout ça, puis l'Église a été bien inutilement brimée. Des couvents, des églises ont flambé. On s'est hâté vers des réformes de structure, comme l'on dit, dont on n'avait pas toujours prévu toutes les conséquences possibles. L'armée a été, pour ainsi dire, décapitée de ses dirigeants, et l'armée s'est irritée. Les intellectuels, il y avait des intellectuels qui, de tendance socialiste et agnostique qui ont pris le pas sur une société qui restait en grande partie traditionnaliste, catholique et croyante. Alors, dès 1934, je rappelle ça, on a vécu ça, moi je suis né en 26 et je me souviens de ces événements-là. J'étais jeune, mais on en parlait beaucoup. Dès 1934, l'année a vu le soulèvement révolutionnaire dans les Asturies. Je vous en ai déjà parlé à l'occasion du martyr d'un groupe de frères des écoles chrétiennes dans les Asturies. Alors on pouvait facilement prévoir le drame qui allait se produire. Puis il y a eu l'avènement du Front populaire en février 1936, puis ça a précipité les choses. Et Garcia Morente, bien, il connaissait bien la mentalité de ses intellectuels, ses amis, ses collègues, ceux d'Espagne et ceux d'ailleurs, qui menaient tout ce train de réforme. Et après sa conversion, dans une conférence qu'il a donnée à Pamplune, il va s'en expliquer très très clairement. Je vous le lis parce que c'est très intéressant sur l'histoire de l'Espagne. Il dit « Il existe aujourd'hui dans le monde un grand nombre de nos frères qui souffrent d'une maladie spirituelle. Je veux parler des intellectuels. Et quelle est cette maladie spirituelle? Eh bien, les âmes des intellectuels d'aujourd'hui ont peur d'avoir la foi. Comme c'est vrai ici au Québec. Ah, c'est vrai, c'est épouvantable. Les âmes des intellectuels d'aujourd'hui ont peur d'avoir la foi. En quoi consiste cette peur? Je vais vous l'expliquer en deux mots. Du moment où Jésus est venu dans le monde, il s'est passé une chose singulière et presque miraculeuse, c'est que cette figure sainte et bénie s'est emparée des cœurs humains et a pénétré en eux si profondément que sa trace y reste indélébile. C'est que dans leur cœur, il y a une lutte tragique, une lutte qui nous remplit de commisération et d'amour pour eux. La lutte contre l'attachante figure du Christ. La lutte contre l'attachante figure du Christ. L'appel du pasteur, continue Garcia Morente. L'appel du bon pasteur qui résonne à leurs oreilles et caresse leur âme. Ceci d'une part. Et d'autre part, la crainte de tomber du piédestal orgueilleux que la science et la philosophie de l'idéalisme ont élevé dans le cœur des hommes modernes. La crainte de passer pour un petit enfant qui se nourrit de fables incroyables, la crainte qu'on leur dise « Comment? C'est cela l'esprit scientifique? Et c'est vous qui croyez à ces choses? » Quelle conférence admirable, hein? Alors c'est ce monde troublé que Garcia Morente a sous les yeux et sur lequel il réfléchit, hein? Durant ce court séjour en France, en juillet 1936, il rentre en Espagne peu de jours après. Le drame se précipite. Le 18 juillet, son gendre, cher à son cœur comme un véritable fils, est assassiné. Sa famille dispersée, c'est la révolution. Il est lui-même condamné à mort par les adhérents du mouvement révolutionnaire. Écoutons-le nous dire les circonstances de cette persécution vraiment odieuse. Oh, il y a bien des gens qui approuvent cette persécution de l'Église, où des milliers de prêtres et de religieux et de laïcs extraordinaires, puis des monuments de toutes sortes ont été saccagés. C'est épouvantable. Il dit « Je n'ai jamais fait de politique. J'ai été sous-secrétaire d'État durant la monarchie. J'ai été doyen, désigné à l'unanimité, des professeurs de la faculté. Durant mon décanat, disons, j'ai fui comme la peste toute politique. » Par deux fois, je me suis refusé à prendre des sanctions contre certains professeurs et certains étudiants. Et pour ces raisons, et quelques autres, les gens de la FETE voulurent m'assassiner en septembre 1936 à Madrid. Je n'ai jamais appartenu au groupement au service de la République, ce groupement qui s'appelait au service de la République, pour la simple raison que je n'étais pas républicain, venant d'être sous-secrétaire d'État de la monarchie, et j'ai toujours cru que la République finirait mal. Je l'ai dit bien souvent. Alors c'est justement cette abstention qui condamne notre philosophe. Cependant, grâce au passeport diplomatique qu'il a obtenu pour venir en France quelques semaines plus tôt, et à une haute protection, il peut repasser la frontière et s'enfuir. Mais sur le quai de la gare de Girone, il voit fusiller le compagnon de voyage qui, comme lui, s'efforce d'entrer en France. Brisé, sans ressources et sans famille, il arrive le 2 octobre 1936 à Paris. À Paris, ce réfugié, Garcia Morenti, finit par trouver des amis exilés comme lui, puis du travail. Et finalement, rentrer en Espagne, il n'y pouvait songer. Comment rentrer en Espagne? Il ne veut pas mettre en danger la vie de ses enfants, que le gouvernement de Madrid ne consent pas à laisser sortir d'Espagne. Il faut vivre. La maison d'édition Garnier, très connue à Paris, lui confie la rédaction d'un dictionnaire. Mais son cœur est lourd, et l'hiver passe. Et voici qu'au début de mai 1937, Monseigneur Joby, son ami français, reçoit une lettre de lui. Et il demande d'obtenir du père abbé de Ligugé, Dom Basset, qui était très connu, l'autorisation de séjourner dans ce monastère qu'un autre converti, Huysmans, dont je vous ai déjà parlé, à des moments, un moment crucial lui aussi, a fréquenté, hein, Huysmans, vous vous souvenez, je vous avais raconté ça. Il écrit, « Je me souviens de cette journée passée à Ligugé, j'aimerais y revenir, il me semble que Dieu m'y appelle à reviser ma vie, reviser ma vie. » Parce qu'il est incroyant toujours. Et Morenti obtient pour 2 mois l'autorisation demandée et se prépare à l'utiliser quand le gouvernement se décide à lui rendre ses filles qui arrivent à Paris avec une de leurs tantes et les petits-enfants si chers au grand-père. Alors Garcia Morenti, là, au même moment, il semble bien que la Providence lui fait offrir par les soins de l'université de Tucumán une chaire de philosophie. Alors il faut faire vivre toute cette famille. Alors Morenti n'hésite pas. Il renonce à son projet primitif. Il prend au printemps de 1937 le chemin de l'Argentine pour aller à Tucumán, où il arrive le 9 juin, avant la guerre. Alors le philosophe est loin d'être converti, hein, seulement touché par la grâce un peu. Et que s'est-il passé? Bien, un document nous renseigne, c'est ce manuscrit intitulé par lui-même Fait étrange. C'est un fait étrange qui lui est arrivé. Il remet ça en septembre 1940 à son directeur spirituel, le père José María García de la Higuera, devenu ensuite évêque auxiliaire de Madrid. Il raconte le fait se produisit dans la nuit du 29 au 30 avril 1937, approximativement à 2 heures du matin. Ça rappelle Blaise Pascal, ça rappelle Didier de Coin. Et toute la journée, précise-t-il, il a médité les sujets d'inquiétude que lui donnait sa famille. Il est seul dans l'appartement qu'il partage avec un ami alors absent de Paris. Et puis cette solitude qu'il a aimé décrire quelques années auparavant, ben elle lui est plutôt douce. Il est très musicien, il a écouté un concert de musique française que transmettait la radio. Il écrit « La pavane pour une infante défunte » de Ravel. Puis, par un orchestre, un morceau de Berlioz intitulé « L'enfance de Jésus ». Ses yeux se mouillent, il a les larmes aux yeux, c'est ce qu'il dit. Et bientôt, défilent devant lui les images oubliées de son enfance, où il était un pieux, Jésus enfant assis près de Joseph et de Marie. Jésus qui pardonne à la pécheresse, la femme adultère, hein? Puis Jésus attaché à la colonne, la flagellation. Ce Nazaréen si cher au cœur des Espagnols, hein, et dont la vue un soir à l'entrée de sa cellule avait déjà bouleversé Thérèse d'Avila au monastère de l'Incarnation d'Avila. Je vous ai raconté ça. Hein. Puis il voit Jésus en croix, puis une foule qui s'élève avec lui tandis qu'il demeure cloué au sol. Il sent la vanité puis l'abstraction et de la philosophie en face de ce concert bienfaisant et des prières tente de franchir ses lèvres, mais il y a de la misère, et alors à genoux, il dit, je commençais à balbutier le Notre Père, mais il dit, chose affreuse, Don José María, je l'avais oublié. Pas la langue, elles lui reviennent les prières.
Mais pourtant, ces deux prières essentielles du catholique, le Notre Père et le Je vous salue Marie, ils les avaient oubliées. Mais le credo, oui, le Je crois en Dieu, ça lui résiste. Mais cependant, Dieu s'installe en lui. Dieu s'installe en lui tout doucement.
C'est le Père Latourelle qui disait, il y a quelques années, on a réalisé que le Concile avait laissé dans l'ombre un personnage important, Jésus-Christ. Plus l'Église va cesser de parler d'elle-même, plus elle parlera de Jésus-Christ, et plus elle sera crédible. Je pense que si on fait un Vatican droit, III, il faudrait le faire sur Jésus-Christ. Pour le réhabiliter, actuellement, l'une des pierres d'achoppement dans le monde théologique, c'est l'incarnation et la divinité de Jésus. Même ici, dit le père René Latourelle, ancien doyen de la faculté de théologie de la Grégorienne à Rome, il était à Rome pendant 30 ans, même ici, il y a des théologiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un homme. Rendu à ce point, la nécessité s'impose de le réhabiliter. Parce que le spécifique chrétien est là, dans l'incarnation. La religion chrétienne est différente de toutes les autres par sa foi en un Dieu parmi nous, dans la chair, le langage et l'histoire. Et le père Latourelle ajoute, lui qui est jésuite, « Si Jésus n'est qu'un homme, excusez-moi, mais je sors de ma compagnie de Jésus. Je ne donne pas ma vie à un petit juif, un petit homme, un petit prophète, un petit guérisseur. » Le père René Latourelle. Eh bien, revenons à Garcia Morente, Manuel Garcia Morente. Il écrit une immense paix après avoir récité le « Je vous salue Marie », le « Notre Père » et le « Credo ». Une immense paix s'était emparée de mon âme. C'est vraiment extraordinaire et incompréhensible qu'une transformation si profonde puisse se produire en si peu de temps. Ou bien faut-il admettre que cette transformation se prépare depuis longtemps dans le subconscient, sans que l'on s'en rende compte? Quelle est exacte la phrase de saint Paul sur les deux hommes, le vieil homme et le nouvel homme? « Mais j'étais encore comme le cheval récemment dompté, tout tremblant, tout indécis, sans savoir que faire et sans pouvoir réellement rien faire. » Alors la nuit s'avance et puis Morente se pose des questions. Et mon Dieu, il voudrait bien s'acheter les évangiles d'une vie de Jésus. Il pourrait réapprendre ses prières, puis la doctrine chrétienne, et c'est à ce moment que le fait sur lequel son directeur n'a jamais voulu du vivant de son pénitent se prononcer ni même revenir, se produisit tel que l'a éprouvé ce néophyte. Jésus, pensait-il, bonté, miséricorde. Oh, une blanche silhouette, un sourire, un geste d'amour, de pardon, d'universelle tendresse. Jésus. Est-ce qu'il s'est alors endormi? Il le pense, mais quand il se réveille, ayant ouvert la fenêtre pour respirer un peu d'air pur, voilà que, dans la chambre éclairée d'une simple veilleuse, il voit l'objet de son amour naissant. Et il écrit, c'est un philosophe réputé, c'est pas n'importe qui. Il dit, je tournais la tête vers l'intérieur de la pièce. Et je restais pétrifié. Jésus était là. Je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas, je ne le touchais pas, mais il était là. Je ne voyais rien. Je n'entendais rien. Je ne touchais rien. Je n'éprouvais pas la moindre sensation. Mais il était là. Ceux qui sont venus hier au Centre Unitas pour écouter cet admirable cinquet Pascal Pingot, où nous n'étions pas nombreux, malheureusement, une 20aine de personnes, ont vu justement un peu la même chose et ont entendu la même chose. Il a eu une conversion subite. Il est devenu l'un des fondateurs des communautés les plus importantes de l'Église. Ils sont en 50, ou 60 même, 60 communautés dans le monde. Lui qui est marié, qui a 7 enfants. Pascal Pingot. Revenons à Manuel Garcia Morente. Il est difficile, évidemment, de se prononcer
Ton directeur, d'ailleurs, éprouvait aussi des problèmes là-dessus, sur la nature exacte de cet événement, de cette apparition. Morente, pour sa part, croit toujours à une véritable visite du Seigneur, qui dure précisément environ une heure. Mais quelle qu'en soit la nature, est-ce que c'est une perception sans sensation, simple point de vue psychologique, c'en est bien une, au sens du moins d'une grâce unique en tous les cas. Et ça décide de sa conversion, et chose étrange et bien naturelle tout à la fois, cette conversion de Manuel Garcia Morente, si nous n'envisageons que la stricte pratique religieuse, va tarder plus d'un an. Curieux, ça arrive souvent, ça. Morente part en Argentine avec sa famille. Il enseigne avec sa vigueur et sa conscience coutumière une philosophie qui déjà ne convient plus à ses aspirations. Et il déclare le mensonge quotidien d'un enseignement universitaire agnostique était pour moi une souffrance continuelle. Mais à part une prière en commun avec ses enfants au jour de leur retour, et qui les comble d'étonnement et de bonheur, il ne pratique pas. Cependant, cette blessure, qui, d'origine divine, s'agrandit en lui, et l'idée même du sacerdoce, c'est un paradoxe, vous n'oubliez pas, il est veuf, c'est un nouveau paradoxe, se glisse en lui, l'idée du sacerdoce se glisse en lui, dans son cœur. Il s'en ouvre par lettre à Monseigneur Eijo, évêque de Madrid, son collègue à l'académie, alors réfugié à Vigo. Et son retour est vite décidé. Alors, une tournée de conférences en Amérique latine, destinée à payer son voyage, il s'embarque avec les siens le 3 juin 1938, et le 28 du même mois, il se confesse à son évêque, puis le lendemain, il fait sa seconde première communion. Puis 2 mois et demi après, le 10 septembre 1938, il y a 60 ans, j'entrai, dit-il, au couvent des Pères de la Merci, les Mercédaires, hein, très populaires en Espagne, et je commençai ma propre préparation au sacerdoce. Et ainsi se termine cette confidence extrêmement émouvante de ce grand converti. C'est à ce moment même qu'il se rend à Vigo. On ne parle que de cette conversion absolument étonnante de cet homme très connu dans toute l'Espagne. Beaucoup s'enthousiasment, et d'autres regardent d'un mauvais œil cet universitaire, cet intellectuel libéral, agnostique, venu à eux, comme s'il avait eu le monopole de leur cause. Des catholiques rejettent parfois les convertis, ça arrive, hein. Catholiques trop coincés. Le père Zaragueta, un philosophe précis et homme de bien, compagnon de Garcia Morente à l'université comme à l'académie, lui annonce la visite de Monseigneur Joby, son ami. Alors notre néophyte, si on peut dire, se présente dans sa soutane neuve, imaginez. Lui, cet homme, veuf, père de famille, grand-père, il est dans sa soutane neuve avec une simplicité charmante. Il dit « J'étais votre maître, me dit-il, me voici devenu votre disciple. » Alors, Morente se prépare vite et sûrement au sacerdoce. Il découvre saint Thomas. Et cette philosophie, qui lui avait semblé de loin abstraite, et plutôt logomachique, verbeuse, si vous voulez, lui apparaît tout à coup dans son réalisme riche et concret une véritable échelle de Jacob. Vous connaissez l'échelle de Jacob dans la Bible? Entre le monde des apparences humaines et celui des réalités transcendantes, les vraies réalités, les réalités réelles, je dirais. 2 ans suffisent. L'un à Poyo, l'autre dans ce séminaire de Madrid, ouvert à tous les vents après les destructions infâmes. Et après la révolution, la guerre civile, et où il accepte joyeusement toutes les incommodités de la vie des jeunes étudiants, les jeunes séminaristes, les jeunes novices. Il a repris sur les instances de son évêque la chaire que l'université lui a offerte, et chaque jour, il va ponctuellement faire son cours, sans fausse honte, sans gêne, sous cet habit nouveau, cette soutane qu'il a revêtue. Son influence reste grande, sa discrétion plus émouvante encore, mais surtout, il prie. Il n'oublie pas le visiteur de la nuit enchanté Jésus, là. Et c'est par la vie intérieure, là, que cet homme extraordinaire, qui savait tant de choses, et si bien, achève son ascension. Et dans ses carnets de retraite, et on lit, « Très beau, quelle horreur, écrit-il, une enfance pieuse et innocente, qui vient subitement déboucher dans une jeunesse pleine de présomptions, d'orgueil et de vanité, succès intellectuel vain et éphémère. » compliments et applaudissements de maîtres, de condisciples et d'amis. La foi perdue. L'orgueil d'une pensée autonome, conduisant des systèmes de l'univers sans Dieu, ou ce qui est la même chose d'un Dieu qui ne tient de Dieu que le nom. Et bientôt, de plus grands succès encore, à 25 ans, professeur à l'Université de Madrid. Allez-y, orgueil et vanité. Et voilà son drame, le drame d'où Dieu l'a tiré. Sans mérite de sa part, pense-t-il, il veut utiliser chaque moment qui lui reste pour le remercier. Or, ces moments sont comptés, il faut que les tâches soient pleines. Garcia Morente a été ordonné prêtre le 21 décembre 1940, à 58 ans. Il a chanté dans la joie, une joie qui lui paraît imméritée, cette première messe dont il a tellement rêvé. Et ses filles, la plus jeune est alors postulante chez les dames de l'Assomption de la rue Velasquez, eh bien ses petits-enfants, ses amis, ses collègues, ses élèves y assistent. Ah, c'est le grand événement de tout Madrid, tout le Madrid en parle. Pour lui, c'est le port entrevu. Souhaiter, contre toute espérance humaine, à arriver au port. Ah. Mais il ne restera pas longtemps en rade. La dernière traversée est proche, et de 1938 à 1942, Garcia Morente, tout en continuant de professer, a multiplié les écrits, les conférences. Je vous donne des titres. L'idée d'hispanité, en 1938. Le souverain pontificat et l'hispanité. Puis un essai sur la philosophie de l'histoire d'Espagne, en 1942. Mais il ne songe plus à écrire pour écrire, mais il veut servir. Il veut définir l'Espagne. Il veut définir cette hispanité qui en est l'essence. Et celle-ci, passant les mers, a fait un monde nouveau, hein, et créé un lien de fraternité spirituelle entre ces peuples qui parlent la même langue, l'espagnol. Un lien palpable, invisible, matériel, intemporel. Et l'hispanité, ben, l'homme espagnol, voilà un thème que la génération de 1898 avait aimé traiter de Unamuno, je vous en ai déjà parlé, à Ramiro de Maeztu. Et Garcia Morente cherche les dénominateurs communs. Et les voici. C'est le sens transcendantal de la vie et l'appel au dépouillement. Voilà l'Espagne. Le sens transcendantal de la vie et l'appel au dépouillement. C'est ce que j'ai découvert la première fois que j'ai mis les pieds en Espagne. Et j'ai été bouleversé. Je suis toujours bouleversé quand je vais en Espagne. Ah, d'où il y a cet ascétisme, ce mysticisme foncier chez l'Espagnol, que l'âme catholique exprime si bien pour un Espagnol, et qui soutiennent une relation secrète, une sorte d'harmonie préétablie avec l'âme espagnole. De celle-ci, il y a un magnifique symbole qui surgit dans la pensée de Morente, c'est le chevalier chrétien, ce caballero, que l'histoire et la littérature hispanique nous ont appris à connaître, hein, je vous en ai déjà parlé. Oui. Le dynamisme ascétique qui constitue le fond le plus authentique de l'âme hispanique, dit-il, s'exprime admirablement dans les vertus guerrières du chevalier, paladin des grandes causes, défenseur du bien, pourchasseur du mal, mais magnanime face à la médiocrité, valeureux, résolu, sobre et de vie ascétique. Ainsi est le chevalier chrétien espagnol. Morente voit alors, dit-il, lui-même, dans quel mauvais chemin, au 18e et 19e siècle, des Espagnols souvent bien intentionnés, mais ayant oublié cette essence chrétienne de l'hispanité, ont fait marcher le peuple espagnol. Il pense sans amertume d'ailleurs à ses maîtres. Il a été l'un de ses égarés. Et c'est ce qui se passe ici au Québec. Nous avons oublié non pas notre hispanité, mais notre québécité, qui est l'essence chrétienne. Elle est d'essence chrétienne, notre québécité. Et il faudrait la mettre de l'avant avec une joie et un enthousiasme passionné. Il faudrait qu'il y ait des Pères Latourelle et bien d'autres qui se lèvent et qui redressent notre québécité et qui fassent de notre pays un pays chrétien, joyeux, ouvert, moderne, vrai. Oh, espérons que le Concile, le Synode et tout ce que l'Église fait pour essayer de renouveler notre foi parviennent à ses fins et que nous allions à l'intérieur de nous-mêmes y découvrir le Christ vivant. Revenons à Manuel Garcia Morente, qui a maintenant retrouvé la vraie voie. Il veut l'enseigner aux autres, puis les dernières années, il va s'y consacrer. Voici comment il s'adresse aux jeunes. Ah, si on parlait aux jeunes comme lui, hein. L'Espagne aussi espère et peut espérer avec une ferme confiance dans l'avenir, dit-il. Oui, le Québec doit aussi espérer dans l'avenir. L'Espagne a, dit-il, jouant sa vie historique, misé sur la bonne carte. Elle s'est liée d'une décision inébranlable au Christ. Et le Christ est toujours, en fin de compte, celui qui triomphe, quel que soit celui qui gagne. Et pour triompher avec le Christ, eh bien l'Espagne n'a pas besoin d'autre chose que de développer tranquillement sa personnalité authentique, dit Garcia Morente. Il continue. Sans précipitation ni retard, mais à la manière du vrai chrétien, qui porte dans son âme la paix féconde du juste. Déjà la moitié du monde nous est fraternellement unis par les liens de la race, du sang et de la croyance. Restons intrinsèquement unis, d'une part à l'Église du Christ, et d'autre part à ce monde commun que forment les nations hispaniques, où circule notre sève bien des fois séculaire. Nous sommes unis à nos frères d'Amérique par le sang, la langue et surtout la religion. L'unité religieuse est le lien le plus fort que nous puissions utiliser entre les membres dispersés de l'hispanité. Si un jour toutes les jeunes générations hispaniques d'ici et de là-bas arrivaient à se prendre par la main pour tenter, unis, l'ascension de la chrétienté écuménique vers le ciel, sous la conduite de l'Église priante et militante, ce jour inaugurerait une nouvelle période de gloire et de splendeur dans l'histoire temporelle du chevalier chrétien. Alors de décembre 1940 à décembre 1942, le père Manuel Garcia Morente a été professeur à l'Université de Madrid et aumônier de ce collège des Dames de l'Assomption où l'une de ses filles est religieuse, comme je vous ai dit. Et l'Action catholique bénéficie de son enseignement, ainsi que les universités de province, oui, et qui ne manquent pas de faire appel évidemment à son talent de conférencier. À la chapelle de Saint-Louis des Français, en cette année de deuil, il donne un sermon en français, sur les vocations respectives des nations chrétiennes, et il salue avec amour la France. Il a des adversaires parmi ceux qu'il a quittés et qui ne lui pardonnent pas sa foi. Parmi ceux vers qui il est venu, qui ne le comprennent pas tous, ceux qui sans passion, ni préjugés, ni envie, suivent cette existence toute de charité, de prière et de travail, ils savent qu'une grande œuvre c'est fait, et cela suffit aux gens simples, ceux qui par bonheur n'ont pas la tête politique, alors que de conseils précieux et d'avis sages ils ont reçus dans ce bureau bien éclairé de la maison des Dames de l'Assomption de la rue Velázquez, parce que Morente, près de sa fille, il y a réuni tous ses souvenirs, tous ses livres surtout, qui ont si longtemps peuplé son logement de la rue Ramon de la Cruz. Ses anciens étudiants aiment à s'y retrouver, car si l'habit a changé, avec son vêtement de mercédaire, si la foi a envahi son âme, eh bien son cœur, sa délicatesse native sont restés les mêmes, simplement c'est affiné, oui, affiné par la grâce de Jésus-Christ. Ses notes intimes, ses cahiers de retraite, ses lettres révèlent ce qu'ont été ses courtes années de sacerdoce si bien remplies. À l'une de ses filles, peu de temps avant son ordination, il a écrit ces lignes, oh c'est beau, qui définissent bien sa piété des dernières années. Il lui écrit à Dieu, ma fille, je demande à Dieu qu'il te donne beaucoup de courage pour entrer d'un bon pas dans la vie intérieure de l'esprit. Si tu arrives à prendre goût à une bonne oraison mentale, tu seras très heureuse, ma fille. Je te le dis d'expérience. Une heure chaque jour, d'intime et libre conversation avec Dieu notre Seigneur. Voilà, oui, voilà qui emplit tellement l'âme, que tout finit par paraître infiniment simple, facile et sans importance. Alors à celle qui va devenir religieuse, il adresse les autres lignes. Ma très chère fille, voici que s'approche le jour heureux de ta profession, et tellement que nous le touchons presque de la main. Pour ému que tu sois intérieurement, crois que je ne le suis pas moins que toi. Et tu ne peux te figurer la consolation que j'éprouve en pensant que tu vas te donner complètement à Dieu, que tu vas être l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu vas entrer dans les rangs de ces saintes âmes qui vivent comme un cœur d'ange, le regard exclusivement fixé sur les yeux immenses de celui qui voit, fait et aime tout. Pour ma part, je n'ai pas pu, de par la volonté de Dieu, abandonner complètement le monde. À dire vrai, je n'y garde qu'un pied, mais ce qui me remplit d'une douce joie, c'est de penser que tu vas me remplacer et t'approcher encore de Dieu. Et voilà le climat spirituel dans lequel baigne Manuel Garcia Morente. Mais à dire vrai, son cœur n'a jamais été gâté. Sa bonté a fait en lui la place qu'allait y prendre la charité surnaturelle. Il était prêt pour la dernière étape, et là, le 7 décembre 1942, après une opération chirurgicale réussie, et sans que rien n'ait alarmé son entourage, on le trouve mort dans son lit. La veille, il a pieusement préparé sa messe de l'Immaculée Conception, qu'il ne pourra pas célébrer, évidemment. Quelques jours auparavant, il a écrit: il suffit de connaître le Christ pour l'aimer. Il suffit d'ouvrir les yeux et de le regarder. Il suffit de connaître le Christ pour l'aimer. Comment le connaissons-nous? C'est en lisant les évangiles et en les méditant. En adorant le très saint sacrement. En se confessant et en communiant, le recevant. Il suffit de connaître le Christ pour l'aimer. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le regarder. Et de le regarder. Manuel Garcia Morente a trouvé, lui, la véritable lumière. Qu'est-ce qui nous empêche? Démobilisé, enfin, il peut accéder au repos. Oui, près de son visiteur d'un soir, devenu son ami, vous vous souvenez, le Christ lui est apparu. Oui. C'est une vie bouleversante que celle de Garcia Morente. Une vie qui nous touche jusqu'au fond du cœur. Et au début de la messe aujourd'hui, on dit: ainsi parle le Seigneur Dieu. Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Alléluia, alléluia, il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia.